qu'ils écrivent, pour qui, pourquoi.
Bernard Leschaud.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est l'été, et en été, on va à la plage et à la piscine, et si on ne veut pas bronzer idiot, eh bien, on lit. On lit un livre qui a été écrit par un écrivain, dont on ne sait en général pas grand-chose, car la plupart d'entre eux ne sont pas aussi médiatiques que les rois de la chanson et du cinéma. Ces auteurs, qui sont-ils? À quoi ressemblent-ils? Comment font-ils? Pourquoi le font-ils? Eh bien, cet été, chaque fin de semaine, nous tentons de le savoir au travers de cette question. Toujours les mêmes. La série a commencé par le dernier prix Goncourt en date, Patrick Rambaud. Aujourd'hui, c'est un autre prix Goncourt que nous allons découvrir, l'écrivain suisse roman Jacques Chessé. Il est d'ailleurs le seul écrivain suisse à avoir obtenu ce prix, c'était en 1973 pour L'Ogre. Ses débuts littéraires datent de 1954 lorsqu'il publia un recueil de poèmes intitulé Le jour proche. Suivra une carrière fort riche où se côtoieront la poésie toujours, des nouvelles, des essais et bien sûr des romans. Parmi les classiques, on peut citer La Confession du Pasteur Bourg, Carabas ou encore Les yeux jaunes. Jacques Chessé continue de publier beaucoup et l'intégrale de son œuvre poétique est d'ailleurs récemment parue aux éditions Bernard Campiche. Chessé, un univers foisonnant où racines vaudoises, sexualité, mort et spiritualité sont étroitement mêlées. L'autoportrait de Jacques Chessé.
À vrai dire, l'autoportrait, je le pratique très naturellement dans mes livres. D'abord parce que ma première voix a été une voix de poète, et que mes poèmes disent « je ». Les récits que j'ai écrits par la suite, les romans, disent « je » pour la plupart d'entre eux. Et même les textes de fiction qui disent « il ». Cela s'explique non pas du tout par un narcissisme forcené, non, je crois pas. Ça s'explique parce que le territoire qui est le mien est celui que je connais le moins mal. En fait, je pourrais corriger le mot de l'autoportrait que de l'autofiction, c'est-à-dire une espèce de métamorphose plastique du personnage selon un certain nombre d'états, mais qui lui appartiennent toujours.
Où, quand et comment Jacques Chessé écrit-il ses livres?
Alors, j'écris mes livres partout. Je peux les écrire assis sur un pliant dans la forêt ou même par terre dans la mousse. Je peux écrire sur le mur du cimetière qui est derrière ma maison. Je peux écrire couché sur un canapé de cuir où je suis censé faire la sieste dans l'après-midi, sur ma terrasse au soleil parmi la prairie et les arbres. Je peux écrire dans le TGV en me rendant à Paris, dans une chambre d'hôtel, je peux écrire aussi. Je peux écrire dans le lit à côté de mon ami ou pendant son sommeil et je ne la réveille guère. Ou si je la réveille, elle se rendort doucement en me disant « Ah, tu travailles ». Je travaille très tôt le matin et très tard le soir. En fait, j'aime bien l'idée que je trouve dans un titre d'Éluard, « Poésie ininterrompue ». Alors voilà, j'écris aussi sur n'importe quoi, n'importe où, d'où de très grandes douleurs d'une certaine épaule, la droite, et parfois du bras droit, parce que ça tire les nerfs et ça tire les muscles, ça fatigue d'écrire. Écrire fatigue, c'est une bonne fatigue. Je déteste les endroits laids et bruyants, j'aime pas beaucoup les constructions hyper modernes, et puis je déteste le bruit, alors évidemment que je vais fuir ces endroits-là. Je vais chercher les endroits où il y a de la musique de jazz, j'en mets chez moi. J'ai écrit certains livres comme L'Os, entièrement sur des airs de Miles Davis. J'ai écrit La Trinité avec Miles Davis aussi, et mon dernier roman, L'Imitation, entièrement avec Oscar Peterson. Donc c'est un besoin très naturel, si j'ose dire, de m'accompagner de lieux, de musique, de figures aussi, qui me sont favorables.
Parmi les livres des autres, lequel Jacques Chessé regrette-t-il profondément de ne pas avoir écrit lui-même?
Alors là, je vais mettre la barre très haut. Pour moi, le livre des livres, c'est l'Évangile selon saint Jean. Je pense qu'on n'a rien fait de plus beau, de plus juste, philosophiquement de plus lumineux, et à la fois de plus mystérieux. dans l'ordre de l'esprit et de l'amour de Dieu, on n'a rien fait à la fois de plus clair et de plus singulièrement obscur dans la clarté même. Et je pense que l'Évangile de Jean est un livre, évidemment que je ne l'écrirai jamais, je suis complètement un nain d'amour devant cette immensité, mais c'est le livre. À part ça, il y a des livres comme ça qui me fascinent complètement, ou des œuvres dans les œuvres. Je pense à Adolphe de Benjamin Constant et à Cécile, autre texte imprescriptible et mystérieux. On ne sait pas comment c'est fait. Benjamin paraît y dire beaucoup de choses, et plus Benjamin Constant nous avoue des choses, et plus ces choses restent mystérieuses et pour moi impénétrables. Et puis il y a Un cœur simple de Flaubert, une nouvelle admirable que j'aimerais avoir faite. Et puis toute l'œuvre de Hemingway, j'aimerais bien avoir écrit L'adieu aux armes par exemple, ou des nouvelles de Hemingway. J'aimerais bien avoir écrit certains poèmes de Mallarmé ou de Villon. Alors voilà, mais ces gens me portent et ce sont de forts exemples. Je ne cesse de regarder vers eux et ça m'importe, ça m'intrigue.
Vous ne citez pas Baudelaire alors qu'on a souvent lu votre œuvre au travers du prisme Baudelaire également.
Je profite de dire que, outre les livres, la peinture me touche et m'importe profondément. Et que lire Baudelaire, c'est lire quelqu'un qui plastiquement et philosophiquement est près des peintres. Donc je pense qu'on n'a jamais rien fait de plus dans la critique de la peinture que ce qu'a fait Baudelaire, et même en poésie. Et je pense que Baudelaire, en effet, est un poète du quotidien, à la fois esthétique et moral. Et si je ne l'ai pas cité, c'est parce que je le voyais à la fois comme critique, comme philosophe, comme accompagnateur des peintres de son temps et du mien. Mais il est là, bien sûr, très fortement.
Le dernier livre de Jacques Chaissé, en quelques souvenirs, en quelques émotions.
Alors, le dernier ouvrage que j'ai écrit, c'est L'imitation. C'est un roman qui tente de montrer l'extrême fascination que Benjamin Constant, encore lui, exerce sur un écrivain, au point d'arriver à détruire cet écrivain. Comme si, entre Benjamin Constant et cet écrivain, s'établissait un rapport tel que l'écrivain contemporain, dont c'est l'histoire, est littéralement tétanisé par cet exemple. En fait, c'est le livre de l'image qu'on ne rejoint jamais. C'est comme une parabole qui ferait que dans notre modestie, nous ne pourrons jamais imiter ni Jésus-Christ, en dépit de notre foi, ni Marx, Lénine ou Mao Tse-Tung, en dépit de notre besoin de changer le monde ou de changer les choses, ni Fernand Léger, en dépit de notre besoin de changer les murs. Il y a quelque chose qui résiste, et c'est le propre de ce livre de montrer que toute imitation est absurde et conduit à la mort, en fait, ou à la folie. Et mon personnage y trouve les deux, mort et folie, folie et mort.
Un lecteur ou une lectrice de Jacques Chaissé est plongé dans un de ses livres. Qui est-il ? Qui est-elle ?
C'est très difficile de cadrer, comme on dit aujourd'hui, parce que mes lecteurs et mes lectrices, étant donné que j'écris une œuvre assez vaste et diverse dans ces genres, sont extrêmement nombreux à tout âge. J'ai écrit des livres pour les enfants, par exemple. J'ai écrit 4 contes pour les enfants. Alors là, j'ai un lectorat jeune, mais les maîtres d'école me lisent aussi. Et comme ces livres ont paru dans le monde entier, et jusqu'au Japon, en Australie, enfin en Chine, alors là, j'ai des lecteurs de tout âge. Je reçois parfois des lettres du Japon de gens très 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 âgés qui me disent « Je viens de lire votre livre, j'ai 86 ans, j'adore votre chat sauvage. » Donc là, c'est très étrange. Les romans, ils sont lus par des gens qui ont entre 15 ans et 70 ans. Enfin, donc je peux dire qu'idéalement, il me plaît d'être lu par des gens qui correspondent à la passion de la lecture et que cette passion n'a pas d'âge.
Ce lecteur, vous n'y pensez pas vous-même, vous ne l'imaginez pas. Ce n'est pas un être de chair et de sang dans votre esprit quand vous écrivez, par exemple.
Si, lorsque j'écris, je pense à être lu. Je fais en sorte que mes livres ne soient pas hermétiques. Et bien qu'ils soient souvent savants, je tends à faire que mes livres puissent être lus par le plus grand nombre. évidemment un nombre exigeant dans l'ordre de l'histoire littéraire, de la connaissance des choses philosophiques, de la morale. J'aime pas non plus brader mes livres. Maintenant, le lecteur idéal, c'est celui qui m'accompagne. C'est souvent l'écrivain, le lecteur idéal. Je reconnais que lorsque j'écris mes livres, je pense à quelques écrivains qui me liront peut-être avant même mon public. Je pense à eux, je me dis souvent qu'est-ce que tel écrivain va dire de ce que j'ai écrit là. Autrefois, je me disais assez souvent qu'est-ce que Jean Paulhan va penser de ce que j'écris, qu'est-ce que Gustave Roux va penser de ce que j'écris, qu'est-ce que mon vieux maître Jacques Mercanton va penser de ce que j'écris là. Or, ces trois hommes, Paulhan, Roux, Mercanton, sont morts. Alors maintenant, je pense à des gens qui ont à peu près mon âge, des gens de ma génération, qui comptent pour moi comme lecteur, comme écrivain, comme critique. Je me dis souvent qu'est-ce que Yves Berger va penser de ce que j'écris. Yves Berger est mon lecteur chez Grasset, directeur littéraire de la maison. Nous nous connaissons depuis 35 ans. Je suis soucieux de ce qu'il va penser à lire mes premiers brouillons.
À l'heure où tout va vite, très vite, de l'avion à l'internet, en passant par le four à micro-ondes, le livre et donc l'écrivain ne sont-ils pas des sortes d'objets de musée ?
Je pense même que les écrivains aujourd'hui, s'ils doivent être des objets de musée, c'est bien parce qu'on aime bien les musées, on se promène dans les musées, il y a de plus en plus de gens dans les musées. Et le fait que les écrivains, parce qu'ils sont devenus des espèces d'objets rares dans la société ultra pressée où nous vivons, sont considérés comme des choses précieuses, me plaît beaucoup. Moi, je déteste la vitesse. J'ai horreur de la hâte, j'ai horreur de la simplification par la précipitation et de la réduction à la vitesse. Alors, si les gens me lisent parce que mes livres ont un rythme lent, parce que je travaille lentement, parce que je vis à un rythme qui est le mien, j'en suis très content et je refuse absolument de me laisser entraîner dans le train fantôme qui conduit les gens à leur perte parce qu'il les vide de leur substance. Quant aux objets de musée, alors je suis très 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 flatté si les gens viennent me regarder non pas dans ma vitrine, mais dans une vie quotidienne, dans une vie ouverte, qui est une espèce de participation à l'art, à l'esthétique, aux idées, si peu exceptionnel pour finir pour moi, si naturel, et que j'aimerais faire partager justement par mes livres.
Pour conclure, pourquoi Jacques Chaisset écrit-il ?
Il y a une vingtaine d'années, je pense, j'ai répondu « j'ai écrit parce que j'ai peur de la mort ». Aujourd'hui, je pourrais dire « j'écris parce que j'ai peur de la mort des autres ». Et parce que j'ai peur de la mort des autres en moi, j'ai peur de perdre les gens que j'aime. Je les aime d'amour, je les aime de tendresse, je les aime d'affection. J'aime aussi les êtres, j'aime les choses, les animaux. Et il me semble qu'il est difficile d'avoir à perdre le monde, si vous voulez. Perdre le monde, c'est étrange. Et peut-être, d'une certaine façon, l'écriture est-elle une façon de cristalliser, d'incarner, de sédimenter un certain nombre de choses qui, sans elles, passeraient trop vite. Métaphysiquement, c'est absurde et à la fois, c'est possible. On lit les écrivains du passé, ils laissent une trace. Alors, je ne tiens absolument pas à laisser une trace, encore une fois, foin de tout narcissisme ridicule. Mais il me semble que conjurer la méchanceté de la mort, l'absurdité de la mort, par une acceptation ouverte de la mort, mais avec les œuvres, avec les livres, qui auront, eux, essayé de sédimenter le réel. C'est un vœu. J'espère le réaliser.
Ils écrivent « Pour qui ?» Pourquoi ? Fin de cette édition consacrée à Jacques Chaisset et réalisée par Bernard Leschaud. L'imitation est publiée par les éditions Grasset.